Lioha Israël, qui, vous le voyez dans votre programme, est prof à Paris à l'EHESS, ça veut dire l'école des hautes études en sciences sociales, et qui s'est intéressé dans plusieurs publications, et même déjà dans sa thèse de doctorat, à, au fond, l'engagement ou le non-engagement des juristes. Elle a publié plusieurs articles, notamment sur le cause lowering, elle vous expliquera certainement ce que c'est, et elle a publié un petit livre par la taille, mais très intéressant, que je vous recommande, et qui est publié par les presses de Sciences Po, et qui s'appelle « L'arme du droit ». Alors, « L'arme du droit », c'est intéressant, parce que, si vous vous souvenez, il y a un moment, moi, qui m'avait frappé, entre beaucoup d'autres, de l'intervention il y a 15 jours, où Damien van der Merch disait « On nous accuse d'instrument, on accuse les ONG d'instrumentaliser la justice ». Et il s'était exclamé « Mais instrumentalisez-nous, nous sommes un instrument, la justice est un instrument hein ». Et donc, évidemment, le titre de ce livre, « L'arme du droit », fait écho à cette exclamation de Damien van der Merch, comme d'ailleurs, il fait écho à cette perspective stratégique sur le contentieux transnational que nous avons voulu mettre en évidence dans le cadre de ce séminaire et pour votre formation. Et puis, après avoir écouté Lioha Israël, nous donnerons la parole à Manuel Lambert. Alors, Manuel Lambert, outre qu'il est assistant à la faculté de droit de l'ULB, ça c'est à temps partiel, à temps plein, il travaille surtout à la Ligue des droits de l'homme. Et donc, lui sait, hein, de même qu'on a vu avec Damien van der Merch, l'acteur type qui est le juge, lui, c'est l'ONG qui a le dossier et qui décide, bien sûr, hein, mais c'est notre témoin privilégié en tout cas, et qui mène des actions judiciaires, donc qui est un des acteurs, d'une certaine manière, dont va parler d'abord Lioha Israël, et donc il pourra lui aussi témoigner de cette pratique, après quoi vous aurez l'occasion de débattre avec nos invités et de poser vos questions. Je cède la parole à Lioha Israël.
Merci beaucoup et merci de cette invitation. Alors j'ai été ravie de l'accepter et puis assez vite j'ai eu quelques inquiétudes. Je me suis dit, est-ce que j'ai pas accepté trop vite? Est-ce que je vais être capable de vous intéresser? C'est une prudence qui n'est pas de la fausse modestie mais qui tient au fait que je ne suis pas juriste et qu'en plus c'est des sujets qui, s'ils m'intéressent et si je les ai croisés à plusieurs reprises, ne constituent pas à proprement parler le cœur de mes recherches, notamment parce que je fais donc de la sociologie du droit, mais dans une perspective qui, pour l'instant, a été surtout socio-historique. Donc, j'ai travaillé sur les années 30, sur la Seconde Guerre mondiale. Je travaille actuellement sur 68 et les années 70 dans le monde du droit en France. Vous voyez, je me rapproche, mais je ne suis pas encore tout à fait sur la période qui nous intéresse vraiment aujourd'hui. J'essaie de montrer pourquoi je peux essayer de dire quelque chose, mais enfin, donc je vais être assez prudente et je vais exposer, non pas comme on le fait d'habitude quand on est sociologue, sur des recherches de première main, en quelque sorte, que j'ai faites, mais plus vous présenter un certain nombre de travaux de collègues, de chercheurs sociologues sur ces questions, et puis des réflexions aussi un peu plus générales sur comment la sociologie du droit permet de repenser sans doute un peu autrement, disons, ces questions par rapport à l'approche qui est celle des juristes, en essayant en même temps de ne pas utiliser les juristes comme une catégorie trop réifiante, parce que je sais bien qu'il y a beaucoup de juristes différents et qu'on ne peut pas non plus se faire des sociologues d'un côté, des juristes de l'autre, c'est plus compliqué. Alors, je vais quand même me situer, puisque la sociologie du droit, c'est à la fois un domaine qui est reconnu et en même temps institutionnellement quelque chose qui est un peu fragile en France et je crois un peu en Belgique aussi. Donc je vais un peu préciser quel type de sociologie du droit j'essaye de faire, hein, puisqu'en France on peut distinguer quand même deux types de sociologie du droit, pour caricaturer, c'est quand même la réalité, l'une de juriste et l'autre de sociologue en quelque sorte. Hein. Alors la sociologie du droit qui est faite par les juristes dans les facultés de droit, c'est soit quelque chose qui est proche de la théorie du droit, de la théorie de l'État, soit une sociologie très empirique et un peu instrumentale qui a vocation à renseigner le législateur sur les évolutions de la société. Hein. C'est notamment l'approche développée par Carbonnier pour ses réformes du droit civil. Donc, une sociologie vraiment science auxiliaire du droit, mais qui n'a pas de finalité en tant que telle, je dirais. Alors que la sociologie du droit dans laquelle je m'inscris, c'est une sociologie qui ne s'inscrit pas dans les facultés de droit, qui ne s'inscrit pas dans beaucoup d'endroits en France, mais qui aurait plutôt vocation à s'inscrire dans les départements de sociologie, et qui revendique de s'inscrire dans la sociologie généraliste, en revendiquant le fait que le droit puisse être un objet légitime de la sociologie. Alors ce qu'il n'est pas trop aujourd'hui, mais ce qu'il a été, et même ce qu'il a été dès les débuts de la discipline, puisque tant chez Max Weber que chez Marx, que chez Durkheim, on trouve des éléments portant sur la place du droit extrêmement essentiels. Mais diverses raisons, et notamment les découpages institutionnels et disciplinaires de l'université française, aussi dans d'autres pays, ont conduit à une séparation en partie artificielle, parce que due au cloisonnement académique, qui a peu à peu, je dirais, éloigné le droit des autres des sciences sociales, et qui fait que le droit, pour les sociologues français, jusqu'à une période récente, pouvait être considéré soit comme, dans cette version très critique, comme un pur outil de la domination étatique, qui reproduit les inégalités de toute nature, soit comme un objet technique neutre, et qui n'intéressait pas les sociologues et qu'on laissait aux juristes. Alors, la sociologie du droit, telle qu'on est un certain nombre à essayer de le faire, cherche à réinscrire justement dans des dynamiques sociales et pour comprendre justement le rôle social du droit, la portée sociale du droit, pour reprendre le titre d'un ouvrage collectif qu'on avait coordonné il y a quelques années sur ces questions, et qui rentre en plus en cohérence, je dirais, avec un certain nombre de débats dans la société, par exemple sur, alors je ne sais pas si on utilise ces barbarismes aussi en Belgique, la juridicisation, la judiciarisation de la société et du politique, les débats qu'il y a eu suite au scandale politico-financier en France dans les années 90, avec un certain nombre d'hommes politiques mis en examen dans des affaires de corruption, etc., ce qui était quand même quelque chose de relativement nouveau. Un certain nombre de le développement d'une justice internationale ou transnationale qui met sur le devant de la scène l'institution judiciaire et son rôle politique, donc autant d'éléments qui légitiment en quelque sorte la démarche de ceux qui en sciences sociales tentent de se réapproprier l'objet droit, non pas pour concurrencer les juristes, mais parce que il apparaît comme une des dimensions essentielles à prendre en compte si on veut comprendre les évolutions contemporaines, mais aussi plus anciennes, je dirais, de la société. Donc c'est ceci qui m'importe, c'est ceci qui correspond donc aux travaux, je le disais, d'autres chercheurs en France. Pour ma génération, nous sommes nombreux à avoir été formés plus ou moins directement par Jacques Comaille, qui est le directeur, là je vois que vous avez un numéro, avec de la rédaction avec André-Jean Arnaud de la revue Droit et Société, qui sont relancés en 86, et qui est un peu notre père à tous, qui a dirigé beaucoup de nos travaux et qui a initié, donné une visibilité, je dirais, à ce renouveau de la sociologie du droit à partir des années 80, avec aussi d'autres gens plus proches de la science politique comme Pierre Lascoum, Evelyne Cerverin, bon, il n'est pas tout seul, Yves Dezalet dans une perspective plus bourdieusienne. Voilà, il y a quand même d'autres chercheurs, je dirais, de la génération antérieure. Mais disons que c'était des chercheurs qui aussi avaient une particularité qui était d'être au CNRS. Alors ça peut sembler anecdotique, mais donc ce n'était pas des gens qui enseignaient, c'était des gens qui faisaient le CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique. En France, c'est des chercheurs à 100%. Donc ils ne sont pas en contact avec les étudiants, ou marginalement, mais disons qu'ils ne sont pas dans les universités en premier lieu. Et donc c'est intéressant de voir que l'endroit où a pu se développer quand même cette première génération de sociaux du droit, ce n'était pas dans les universités, à cause de ce cloisonnement disciplinaire, et ça a été au CNRS, où l'interdisciplinarité était peut-être plus facile à faire. Et la deuxième génération, peut-être, à laquelle j'appartiens, on commence quand même à être aussi dans les universités, je crois, ou dans des institutions comme l'École des hautes études en sciences sociales, où le contact avec les étudiants fait partie, enfin, moi j'enseigne comme dans une université. Donc, ça c'est quelque chose d'important. Une autre de mes filiations, enfin, de mes sources d'inspiration importantes, elle est nord-américaine, c'est-à-dire que une autre source d'inspiration et de référence importante de mes travaux, elle se trouve dans un courant de recherche qui s'appelle Law and Society. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de croiser ce courant de recherche.
Hein?
dans les études. Donc, qui est un mouvement qui s'est développé à partir du milieu des années 60 aux États-Unis, dans une espèce de filiation un peu critique, mais quand même assez forte, avec le réalisme juridique de Roscoe Pound, que vous connaissez certainement. Et donc, ce courant Law and Society a tenté justement ce croisement droit et sciences sociales, initialement dans une optique assez réformatrice. Hein, ça correspond aussi à l'ère Kennedy, enfin, à tout ce mouvement, aussi le mouvement des droits civiques, etc. Donc, c'est porté par une espèce de croyance dans le pouvoir réformateur du droit qui en fait un courant assez optimiste et radical dans le sens américain au départ. Et aujourd'hui, c'est plus un courant de recherche au sens classique, mais c'est un vivier extrêmement riche de croisements entre droit et sciences sociales, avec des congrès annuels qui regroupent 1200, 1500 chercheurs tous les ans, hein, des débats extrêmement riches, et puis un certain nombre de paradigmes, de courants d'analyse qui se sont développés dans ce cadre-là, et en particulier celui sur le cause lawyering, justement, hein, sur ces avocats engagés sur lesquels je me suis appuyée, auxquels j'ai participé, et sur lequel je vais revenir maintenant. Alors, pour revenir au champ français de la sociologie du droit, même si ce n'est pas moi qui l'ai fait, certains ont travaillé, peut-être que ceux qu'il aurait fallu inviter, sur les perspectives transnationales ou sur la question du droit pénal international. Hein, je vais passer parfois de l'un à l'autre, j'imagine que ça arrive dans ce séminaire, sous différents axes, même si ça reste évidemment un champ qui reste très circonscrit, mais pour vous donner quelques références, il y a eu par exemple un numéro de la revue Critique Internationale qui a été dirigé par Johanna Siméon. Alors, c'est souvent des travaux qui sont plutôt inscrits en sciences politiques en France. Hein. Un numéro de la revue Critique Internationale dirigé par Johanna Siméon sur le modèle de l'enquête judiciaire face aux, crimes, aux crises extrêmes et qui traite de ce type de situation. Il y a une thèse aussi de Julien Seroussi sur la compétence universelle qui a été soutenue en 2007, je crois. Il y a un travail en cours plutôt d'anthropologie d'Elisabeth Clavry sur le tribunal pénal international de La Haye et plus généralement aussi sur... qui est un aller-retour entre ce qui se passe au TPI grec et ce qui se passe sur le terrain, la réconciliation d'un point de vue anthropologique dans les villages qui sont concernés. Donc il y a quand même un petit champ de recherche, je dirais, qui est sociologie, sciences politiques, anthropologie, de personnes, un petit peu philosophie aussi, qui s'intéressent sur ce type d'objet juridique, je dirais. Alors on n'est pas nombreux. Et la spécificité peut-être de ces chercheurs, s'il y en a une, outre leurs objets, c'est de s'appuyer souvent sur une sociologie des mobilisations ou une sociologie des mouvements sociaux. Hein, d'ailleurs, plus qu'une sociologie du droit au sens traditionnel. Et il se démarque, donc, me semble-t-il, de la manière dont les juristes appréhendent ce type d'objet, en portant finalement, je pense en proportion, assez peu attention aux cas et aux décisions, hein, voire même au droit, black letter, enfin au droit sur lesquels s'appuient ces procédures, que sur les conditions de possibilité, les conditions d'émergence, je dirais, de ces mobilisations, sur les acteurs qui interviennent, sur les effets que peuvent avoir ces procédures sur les victimes, sur des États, sur des organisations internationales, etc. Donc, ce qui caractérise, me semble-t-il, et là, je trouve que c'est un point intéressant, ces travaux, c'est qu'ils tendent à réinscrire le droit dans un ensemble de formes de mobilisation disponibles. C'est-à-dire qu'ils n'isolent pas l'action judiciaire pour se concentrer là-dessus, mais ils ont plutôt tendance, et c'est aussi la manière dont je vois les choses, à considérer des mobilisations au nom des droits de l'homme ou en faveur de telle population ou de prendre comme entité de départ la FIDH ou une telle organisation et de se dire, bon, voilà, donc cette organisation a des objectifs et elle va utiliser le droit ou d'autres choses. Pourquoi dans certains cas utilise-t-elle le droit ou pourquoi dans certains cas ne l'utilise-t-elle pas et avec quels effets, quelles contraintes, quelles ressources ça peut constituer, etc. D'accord ? Donc cette manière de... considérer le droit comme une forme de mobilisation parmi d'autres sans s'illimiter, hein, me semble être une première caractéristique quand même des travaux de sciences sociales, hein, par rapport donc à la manière dont les juristes forcément partent de cette base-là. Hein, ils s'intéressent assez peu finalement à l'ensemble des mobilisations possibles ou connexes ailleurs. Donc, quelle ligne d'analyse, je dirais, cette forme de désingularisation, en quelque sorte, de l'objet juridique, mais pour mieux le resingulariser après, par comparaison avec les autres formes d'action, est-ce que cela produit? Et qu'est-ce que l'on peut dire à propos de ces approches, du point de vue des enseignements que cela donne? Alors, je vais revenir sur le fait que je disais, on ne peut pas dire les juristes, en l'occurrence, l'article de Benoît Friedman et de Ludovic Henbel sur l'approche stratégique, justement, que j'ai lu, se distingue de la plupart de nombreux autres travaux juridiques par son caractère extrêmement pragmatique, par le fait qu'il s'appuie sur des exemples concrets, qu'il se soucie des acteurs, et que donc, à la limite, c'est assez peu, c'est pas si différent de ça, de ce que pourrait faire l'essence sociale. Hein. Mais, disons que l'environnement problématique et la manière de réinscrire par rapport à des concepts, par rapport à des résultats sur les mobilisations de manière plus générale, par rapport à des temporalités différentes, les questionnements font quand même que malgré cette proximité qui est beaucoup plus grande qu'avec d'autres traditions juridiques, on peut quand même utilement essayer de lancer une discussion, disons, entre nous. L'autre point qui me semble important, c'est un point de vue, peut-être sur lequel on pourra revenir, de méthode, c'est-à-dire que c'est le fait de ne pas parler que du droit quand on fait de la sociologie du droit, mais de le réinscrire dans d'autres, par rapport à d'autres registres ou types d'actions sociaux, elle a aussi une application méthodologique, c'est de ne pas spécifier une approche méthodologique spécifique au droit en tant que sociologue. Alors c'est quelque chose auquel je suis tout le temps confrontée à la fois par rapport à mes collègues sociologues ou par rapport aux juristes, c'est-à-dire que les sociologues pensent toujours qu'il faut avoir fait du droit pour faire de la sociologie du droit, c'est-à-dire que mes propres collègues, déjà une fois sur deux, marquent juriste quand ils me citent, et en plus sont inhibés, disons, pour parler des sujets juridiques. Et certains juristes ont aussi un a priori qui tendrait à dévaloriser les sciences sociales comme n'étant pas légitimes parce que n'étant pas assez fins connaisseurs. Alors, ça demande effectivement de se familiariser et d'essayer de ne pas faire trop d'erreurs, mais je crois qu'il faut passer outre. Comme pour faire de la sociologie de la médecine, on n'a jamais obligé les gens à faire médecine, donc je crois qu'on peut aussi essayer d'être sérieux et rigoureux et s'attaquer au droit. Mais par contre, je crois qu'il ne faut pas non plus de méthodologie spécifique et que ce sont les méthodes des sciences sociales, dans leur généralité, qui peuvent être utilisées, alors que certains auteurs, dans la littérature française internationale, justement du fait de cette inhibition, ont cherché à dire « Ah non, il faudrait quand même des méthodes spécifiques, voir si les juristes sont d'accord, etc. » pour appréhender ce type d'objet. Alors, je vais passer, parce que je suis évidemment trop longue, au point un peu plus concret. Alors, je vais surtout axer mon exposé sur l'accent porté sur les acteurs, et puis j'essaierai quand même, après, si j'en ai le temps, de parler d'autres questions. Alors, donc, cet accent sur les acteurs, il renvoie donc assez directement, je dirais, enfin, en tout cas, c'est ce qui était attendu de moi, à l'évocation de ces travaux donc, sur les cause lawyers, hein, sur les avocats engagés. Donc c'est un courant de recherche qui a été créé aux États-Unis par deux, alors un politiste et un juriste du point de vue de leur inscription institutionnelle, qui s'appelle Austin Sarat et Stuart Sheingold. Donc qui, au milieu des années 90, rassemble un certain nombre de chercheurs autour d'une réflexion commune sur la question des, on va dire, des avocats engagés, en se disant, voilà, alors, il y a des... Ils connaissent quoi, on est dans l'après-année 70-80, donc il y a eu des mouvements d'avocats féministes, il y a eu des mouvements d'avocats pour les droits civiques, pour les minorités, d'avocats même noirs pour la défense des minorités. Ils ont vu des avocats du droit du travail qui se sont spécialisés dans l'accompagnement des luttes, par exemple en Californie pour les travailleurs agricoles. Ils ont vu des avocats qui se sont battus pour les droits des homosexuels en Californie et se disent, voilà, donc des avocats de gauche en général, qui se sont défendus sur plusieurs causes, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de voir ce qu'ils ont en commun et de trouver une catégorie d'analyse hein, qui fasse sens pour traiter de ce type d'avocat qui nous semble nouveau. Donc en fait, ce terme de « cause lawyers hein, », qu'on peut traduire en français par « avocat des causes » ou « avocat engagé », il regroupe comme ça un espèce de conglomérat. Et il va permettre, ce nouveau terme, de poser un certain nombre de questions, d'essayer de savoir quel type d'avocat ou de juriste sont ces personnes dont on sent bien qu'il y a quelque chose en commun mais qui sont encore mal connues et sur lesquelles vont être menées des enquêtes empiriques. Quels sont les rapports de ces avocats à leur profession d'origine, hein, puisque par exemple, ce sont à la fois souvent des personnalités très visibles médiatiquement, donc qui représentent en quelque sorte la profession, et en même temps, souvent leurs collègues, leurs confrères trouvent qu'ils vont trop loin, qu'ils donnent une image qui n'est pas assez neutre de la profession, qu'ils ont tendance à confondre défense du client et défense d'une cause politique, etc. Donc à la fois cette visibilité et cette position de porte-à-faux par rapport aux normes professionnelles. Quel est aussi leur rapport à l'État, puisque souvent ils sont dans des affaires quand même où ils vont s'opposer au pouvoir public, par exemple pour demander des réparations, pour critiquer, je ne sais pas, la ségrégation dans les États-Unis des années 50, etc. Quels sont leurs rapports avec les mouvements sociaux pour lesquels ils combattent, hein? Est-ce que les avocats des mouvements des droits civiques doivent être issus eux-mêmes des minorités? S'ils ne le sont pas, est-ce qu'il n'y a pas un problème de délégation politique et finalement de renforcement de la domination par le fait qu'ils ne sont pas issus de ces minorités qu'ils prétendent représenter dans le prétoire, etc. Est-ce qu'ils ne vont pas avoir tendance aussi, c'est un autre questionnement, à vouloir absolument faire que les mouvements sociaux n'agissent que par le droit, alors que ça coûte cher, que ce n'est pas forcément très pertinent. Donc, est-ce qu'ils ne vont pas détourner l'énergie, en orientant la mobilisation sur des sujets qui ne sont pas compréhensibles, qui vont être techniques, donc qui risquent de démobiliser les gens, hein. Donc, voilà le type de réflexion qui vont être menées sur des terrains très diversifiés et dans des ouvrages collectifs successifs qui vont être publiés. Le premier, donc sous le titre Cause Lawyering, et puis avec après une suite, le premier date de 1998, et là, je crois qu'on en est au sixième actuellement, hein, donc c'est presque, c'est les séries 1, série 2, série 3, le modèle des séries américaines, ça ne s'arrête plus, et bientôt il y aura les coffrets. Je dis ça un peu ironiquement, parce que ça se dilue un peu, et ça va peut-être un petit peu vite, disons, dans l'accumulation. Et puis le dernier volume est justement sur la question de la représentation culturelle avec beaucoup d'analyses sur les places des avocats dans les séries américaines. C'est peut-être pas le volume le plus passionnant. Donc ces cause lawyers, ils sont intéressants et... pourquoi on rigole, on me travaille là-dessus?
Parce que je... Non, c'est intéressant quand même.
Non, mais c'est très anecdotique sur la manière dont c'est Hossein Sarrat actuellement travaille sur la représentation de la justice au cinéma de manière extrêmement intéressante. Mais là, on a des papiers qui sont... qui sont écrits très vite. Enfin, ouais, il y a un an entre chaque série maintenant. Et moi, je trouve que ça commence à être un petit peu léger. Donc un courant de recherche comme ça qui connaît un peu une expansion, on va revenir peut-être sur les limites ensuite, très très importantes, et en même temps une mise en évidence, je dirais, d'une figure très intéressante, d'une figure qu'on peut caractériser, pour avancer un petit peu, le fait que ces avocats, ce qu'ils ont sans doute en commun, c'est finalement qu'ils partagent la cause de celui de ceux qu'ils défendent. Et que donc cette cause, il la porte dans le prétoire, mais il la porte aussi à l'extérieur du prétoire. Et que donc la relation libérale d'échange commercial, elle est complètement modifiée, évidemment, par ce partage. Alors, évidemment, les avocats qui portent le contentieux international ou transnational des droits de l'homme, ils constituent une très bonne illustration de cette figure. Et notamment, par exemple, l'association Sherpa et ses membres, en premier lieu William Bourdon, qui, à ma connaissance, n'a pas été étudié en tant que tel, correspondra à une espèce d'illustration un peu parfaite de ce type d'incarnation d'une cause par un avocat qui se mobilise, qui se spécialise et qui va très loin, qui fait le promoteur de la justice pénale internationale en tant que secrétaire général adjoint puis secrétaire général de la FIDH pendant plusieurs années, qui va déposer un certain nombre de plaintes, des premières plaintes relatives à la compétence universelle, etc. Donc, on peut dire que c'est vraiment un type d'objet qui correspond très bien. Et pour analyser, si on se penchait sur cet objet, sur cette personne, sur cette association de point de vue cause lawyering, on pourrait, par exemple, parce que Bourdon incarne un peu cela, adopter une approche de type sociobiographique, donc centrée sur un acteur, où on s'intéresserait, par exemple, pourquoi a-t-il choisi sa profession, quelle a été sa carrière avant d'en arriver là, hein. Ce qui est particulièrement intéressant sur des contentieux très récents comme celui-ci, c'est-à-dire que Bourdon aujourd'hui incarne ça, mais comment y est-il arrivé? Est-ce qu'il défend aussi d'autres choses? Lesquelles? Comment ça s'articule, etc.? Sous quels auspices a-t-il débuté? Comment a-t-il développé cette expertise spécifique, etc.? Or, si on regarde rapidement, je connais pas le personnage, j'ai pas travaillé dessus, mais Wikipédia, Annuaire du Barreau, un grand interview sur Mediapart qu'il a donné la semaine dernière parce qu'il y a un livre qui vient de sortir de lui. Si on regarde rapidement, on voit que c'est un personnage un peu plus complexe, enfin, comme tout le monde est plus complexe, enfin, c'est intéressant de se pencher sur le personnage. Plusieurs caractéristiques que j'ai relevées. Déjà, c'est l'arrière-petit-fils d'Édouard Michelin. Hein. Donc, c'est l'héritier d'une dynastie industrielle majeure en France. Une des plus grandes fortunes, et aussi une entreprise qui a été très fortement critiquée pour sa politique sociale. Puisqu'il y a même un documentaire sur les Bibles, qui a eu un certain succès en France il y a 5-6 ans, sur les licenciements massifs qui ont été faits par Michelin, alors que c'était une entreprise qui dégageait du profit. C'est aussi une entreprise qui exploite qui a des plantations de caoutchouc en Afrique. Donc, c'est intéressant. Hein, il est aussi... Alors, je vais lister des caractéristiques qui n'ont rien à voir, puis je vais essayer après d'expliquer ça. Il est aussi ancien secrétaire de la conférence. Alors, j'imagine que ça existe aussi en Belgique. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là.
La conférence du barreau.
Oui. Ouais.
OK. Hein? Donc, il est dans les instances de l'ordre du barreau. Non.
C'est un truc très spécial.
Ah bon. Il faut que vous disiez qui est William Bourdon.
C'est un avocat très connu, spécialisé en droit transnational, qui a été le secrétaire de la FIDH et qui est maintenant donc a monté cette association Sherpa qui promeut, on peut dire, le droit transnational, notamment sur les questions économiques.
Et c'est lui qui a plaidé l'affaire Total, qui était responsable de l'affaire Total, dont on vous a parlé, qui a négocié la transaction.
Voilà. Et donc. Ancien secrétaire de la conférence du stage, ça doit dater de, je crois, début du 19e siècle, sous Napoléon Ier, et c'est pour ça que ça a pu exister en Belgique. Et c'est une espèce de concours d'éloquence. Il y en a plusieurs, mais la principale, c'est la conférence du barreau. Après, il y en a d'autres qui ont des noms, conférence Berryer. Un concours d'éloquence qui distingue 12 jeunes avocats les plus brillants, donc c'est des espèces de joutes. En général, en présence de personnalités du monde politique et social parisien, c'est très couru. Et les 12 secrétaires de la conférence. Et le premier secrétaire, c'est vraiment le plus brillant d'entre eux. Il paraît que le crédit, aujourd'hui, avec le succès des avocats d'affaires, c'est moins prestigieux, mais c'était les futurs bâtonniers, étaient les anciens secrétaires de la conférence. Hein, c'était vraiment très, très. Et bon, lui, il a été secrétaire de la conférence en 82, donc c'est aussi intéressant de le noter. Autre caractéristique, il travaille dans un cabinet qui ne fait pas que du droit transnational. Là, si on regarde les annuaires d'avocats, il fait un cabinet où ils font aussi du droit du travail, ils font aussi un peu de droit des affaires. Donc, ils ont différentes spécialités. Lui, il fait aussi du droit de la presse, beaucoup. Et puis, autre point qui est pas mal critiqué, par exemple sur Wikipédia, il défend aussi les intérêts de l'État libyen dans un certain nombre d'affaires, notamment l'attentat de Lockerbie. Et on peut voir une certaine contradiction. Entre la manière dont il incarne une certaine défense des droits de l'homme et le fait de défendre la Libye, voire même le fils de Kadhafi, hein, dans un certain nombre d'affaires. Donc, différentes facettes du personnage, encore une fois, trouvées extrêmement rapidement et superficiellement, et donc on peut relever, essayer d'expliquer. Donc, hein, je vais lister, donc remettre en perspective ces caractéristiques, proche donc du milieu des affaires et le plus élevé, le plus capitaliste industriel traditionnel. Et dénonçant les crimes du capitalisme, hein, je crois que c'est le nom de son dernier livre qui sort cette semaine, lauréat de la conférence du stage, c'est-à-dire inscrit dans une tradition élitiste du barreau français qui a donné naissance au modèle de l'avocat homme politique à la française triomphant de la Troisième République, donc par là inscrit dans une filiation aussi assez classique et des élites françaises traditionnelles. Hein. Ça, c'est la conférence, son rôle dans la formation des hommes politiques a été mis en évidence par beaucoup de travaux, Gilles Le Béguec, Jean Johanna, Lucien Carpic, etc. Et en même temps, il n'a pas eu une carrière d'homme politique classique, puisqu'il se situe dans d'autres organisations. Cette énigme libyenne, ces différentes caractéristiques font qu'on voit bien que, comme tout le monde, si on commence à regarder les caractéristiques socio-biographiques de ce type d'acteur, il n'a pas la pureté supposée de l'avocat des causes désincarnées qui serait forcément fauché, de gauche, d'une famille de gauche, l'homme d'une seule cause qu'on suppose implicitement quand on parle des avocats engagés. Donc on parle d'ailleurs de pas mal d'autres personnes engagées. Hein. Juste une petite remarque en passant, je ne sais pas si en Belgique ça a la connotation, mais j'imagine que si, avocat engagé en France comme intellectuel engagé veut dire implicitement de gauche, qui est quand même quelque chose qu'on pourrait interroger aussi, parce qu'on on peut s'engager à droite aussi, mais avocat engagé, ça veut forcément dire droit de l'homme, alors que les avocats qui soutiennent les militants anti-avortement, je peux vous assurer qu'ils sont aussi très très engagés. Et je peux vous assurer aussi qu'ils n'intéressent absolument personne dans le champ scientifique. Hein. Je vais revenir sur cette caractéristique. Donc, alors, comment expliquer ces contradictions, hein? La visée de la sociologie, contrairement à ce que pensent certains, et notamment certains de mes collègues, elle n'est pas forcément dans la dénonciation. Donc, quand je pointe ces paradoxes apparents dans, par exemple, la figure du Bourdon que je ne connais pas, ce n'est pas pour dire, vous voyez, il n'est pas si bien, machin, ce n'est pas du tout mon sujet. Au contraire, c'est d'essayer de comprendre et de mettre en évidence certaines caractéristiques, d'expliquer ces apparentes contradictions, ce qu'ont fait d'autres collègues en travaillant justement ces contradictions inhérentes à l'exercice de cette profession. Alors, une première caractéristique, et que là on peut sans doute, qu'on pourrait sans doute mobiliser pour comprendre le personnage, c'est, et ce qu'a apporté, me semble-t-il, la sociologie dans ses approches, c'est la prise en compte des conditions matérielles qui permettent de s'engager dans des luttes, et ça vous le mentionnez dans votre article, qui sont longues, périlleuses, qui coûtent très très cher, et qui demandent en général de pouvoir s'appuyer sur une fortune personnelle, ce qui est peut-être le cas de Bourdon, puisqu'il a manifestement sans doute une fortune personnelle importante, soit sur des grandes ONG qui peuvent soutenir ses avocats, soit éventuellement sur une carrière lucrative par ailleurs, dans laquelle on va isoler, je dirais, un certain temps de travail pour se consacrer à des choses qui nous tiennent à cœur, ou des choses... Là aussi, l'articulation est parfois complexe, soit qu'ils nous tiennent à cœur, soit qu'ils font bien. Hein, parce qu'il faut bien voir qu'aujourd'hui, les grandes firmes des avocats d'affaires américains font tous du travail pro bono pour des ONG, etc., ce qui leur donne une vitrine sociale. Donc il faut aussi voir que le désintéressement, il n'est pas forcément total sur le fait de s'engager sur ces causes, mais en même temps, c'est très intéressant pour ces causes d'avoir le soutien de ces avocats. Donc il ne faut pas non plus être cynique, dire oh, c'est impur, ce sont des avocats d'affaires, parce qu'en même temps, et je vais y revenir, ça peut être très très utile de les avoir sous la main pour un certain nombre de raisons. Donc, l'intérêt hein, ce que permet d'apporter la sociologie, me semble-t-il, des sciences sociales, c'est de porter attention aux conditions matérielles et pratiques qui rendent possible le fait de s'engager dans ce type d'action. Le deuxième point, c'est comment penser la contradiction entre différentes causes qui peuvent être défendues par un même avocat. Hein ? Alors, il y a ce qui correspond à la clientèle classique de l'avocat qui répond aux demandes de ses clients, et après tout, c'est fait de ça. Mais on attend un peu de ce type d'avocat autre chose, justement, une certaine pureté qui ferait qu'il n'est pas censé avoir des causes trop contradictoires des clients dont les intérêts sont trop contradictoires les uns avec les autres. Alors, c'est ce qu'a, par exemple, montré Laurent Villemez dans un travail qu'il avait fait en France sur les avocats du droit du travail qui sont notamment engagés... dans un syndicat d'avocats qui s'appelle le syndicat des avocats de France. Il avait montré que une grande partie de ces avocats, par exemple, de spécialisés en droit du travail, refusaient de défendre les patrons, alors que ça aurait été plus lucratif, mais parce qu'ils disaient bah « ouais, mes compétences, je ne les mets qu'au service des salariés, moi-même, je ne les mets qu'au service de tel syndicat, et je gagnerais plus si je ne faisais pas comme ça, mais moi, je veux être avocat pour défendre ça et pas autre chose. » Donc, il y a effectivement certains avocats militants qui font ça. Et puis, il y a des avocats pour qui ce n'est pas le cas, voire même il y a des carrières, et là aussi c'est intéressant de regarder parfois en longitudinal, qui semblent contradictoires de ce point de vue-là. On peut par exemple citer dans les travaux sur post-lawyering un chercheur israélien qui s'appelle Yoav Dotal et qui avait travaillé sur des avocats spécialistes des droits de l'homme en Israël, notamment dans la défense des Palestiniens, et qui montre qu'un certain nombre d'entre eux poursuivi leur carrière à la Cour suprême israélienne du côté de la défense des intérêts de l'État face aux avocats qui défendaient les Palestiniens. Donc il dit, voilà, on pourrait se dire, ce sont des traîtres, ils ont changé de côté, c'est des mercenaires, etc. Il montre que c'est pas comme ça qu'il faut comprendre les choses, que ce qui rassemble les gens qui sont des deux côtés de la barre, en quelque sorte, dans cette institution, c'est qu'ils y croient. C'est qu'ils croient que le droit a un sens dans un contexte politique comme celui-là pour résoudre les conflits. Et que donc ce qu'ils partagent, est finalement plus grand que le fait de se trouver d'un côté ou de l'autre. Hein ? Et ça, c'est aussi un résultat, en quelque sorte, auquel nous sommes arrivés lorsque une équipe, avec d'autres chercheurs français, on a travaillé un peu sur la transposition de ce modèle dans le cas français ou sur nos terrains, et aussi on travaille sur l'Amérique latine. Et ce qu'on a appelé, c'est le titre du numéro qu'on a fait ensemble, la cause du droit. C'est-à-dire que ce qui rassemble aussi ce type d'avocat ou ce type de juriste, parce que Violaine Roussel, dans ce numéro, a aussi travaillé sur les magistrats. Est-ce qu'on peut parler de cause lawyers pour des magistrats engagés ? Ce qui rassemble ce type de juristes par rapport à d'autres militants, et ce qui les rapproche des autres juristes, c'est leur croyance dans la cause du droit. Et c'est souvent ça qu'ils défendent quand même en dernier ressort, je dirais. Donc, par opposition, par exemple, à d'autres militants qui ne croient pas dans le droit, qui pensent même que c'est contradictoire avec le sens d'une victoire politique que de l'obtenir comme ça, etc. Et ce qui est intéressant sur cette cause du droit, c'est qu'effectivement, ce qu'on retrouve chez un certain nombre de ces juristes, y compris les plus radicaux, c'est que même si très souvent, ce sont ceux qui ont le plus fait l'expérience du fait que le droit triomphe très rarement contre le pouvoir de l'argent, que le droit triomphe très rarement contre la force des États, que le droit triomphe très rarement lorsque les intérêts sont trop inégaux, pourtant, ces avocats-là continuent à croire que le droit est une solution. Hein. Et Bourdon en est encore un bon exemple, puisque son dernier ouvrage prône en fait une nouvelle réforme du droit pour canaliser, réguler les entreprises transnationales. Donc, ça les dissuade pas, ou finalement, ils continuent à y croire, alors qu'ils sont bien placés pour voir que c'est quand même particulièrement dur, particulièrement lent, particulièrement inefficace, les armes juridiques sont particulièrement inégales, parce qu'évidemment, c'est un très bon avocat à Bourdon, mais enfin, Total a quand même pas mal d'avocats, qu'il a les moyens de bien payer, etc. Donc, c'est une lutte un peu inégale quand même de passer par là, et pourtant, il y croit encore. Hein. Et donc, la cause du droit, elle reste quand même quelque chose qui est très forte chez ces juristes, et c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi et comment. Il y en a aussi qui se désenchantent, il y en a qui la quittent, hein, mais elle reste structurante. Donc, ce que montrent de tels cas, je crois, et ce que montrent donc les approches en termes de cause lawyering, c'est l'intérêt, et je ne peux pas le faire ici, évidemment, c'est trop rapide, et puis en plus, je n'ai pas assez moi-même de matière personnelle, l'intérêt de se pencher finement sur les trajectoires des personnes, sur les carrières professionnelles, dans la succession des cas, des spécialités que peut connaître un juriste, par exemple, sur les pratiques concrètes, comment se passent les relations de travail entre une ONG et un avocat. Hein, ça, je crois que ce sont des objets qui sont très, très intéressants. Et à mon avis, par rapport à ce type de recherche, ce qui est pertinent, c'est pas forcément, et c'est une dérive qu'on trouve aussi dans les travaux sur le cause lawyering, c'est pas très intéressant de chercher les motivations, ou de s'intéresser sur les valeurs, ou de voir s'ils sont bons, qu'ils sont généreux, il y a pas mal de travaux comme ça qui sont bons, c'est sympa, mais... Par contre, essayer de comprendre quelle est leur activité concrète, quelles en sont les contraintes et les ressources politiques, comment ça s'articule avec le fait, les contraintes professionnelles, ils doivent gagner leur vie, non ? Donc comment on fait ? Est-ce que on se fait salarié, mais ça implique d'autres choses, on perd de sa liberté d'avocat quand on se fait salarié, et puis dans certains pays c'est pas forcément possible, enfin bon, ça dépend du type de pratique. Est-ce que on va avoir une clientèle qui n'a rien à voir à côté ? Hein, par exemple, Maître Henri Leclerc, qui dirigeait pendant longtemps la Ligue des droits de l'homme en France, qui est un des plus grands avocats politiques, il m'a raconté qu'il faisait du droit de spécialiser sur les expropriations un jour par semaine. Et puis, le reste, il ne faisait pas payer. D'accord ? Évidemment, il n'est pas connu pour ça, mais il avait bien besoin pour pouvoir financer le reste, en quelque sorte, pour ne pas faire payer ses clients, de faire des choses lucratives pour que le cabinet tourne, parce que lui, il n'en avait pas de fortune personnelle. Donc, c'est intéressant de regarder les conditions de possibilité et la matérialité des choses. Ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre comment on devient un avocat engagé. Hein, on peut parodier Simone de Beauvoir et dire on ne naît pas avocat engagé, on le devient. Alors, on le devient comment ? Et notamment, comment se fait l'articulation entre la cause et la profession ? Ce n'est pas évident. Quelquefois, il y a des personnes qui d'abord sont des militants qui se disent, pour réaliser mon engagement, c'est la profession d'avocat, par exemple, qui va me permettre de le faire. Alors là, ce sont des gens, par exemple, qui vont faire ce que j'ai dit sur les avocats travaillistes, qui vont défendre qu'un certain type de client. Parce que c'est pour eux qu'ils ont fait ce métier. Ou c'est pour un type de cause qu'ils ont fait ce métier. Hein, donc, par exemple, sur les avocats du droit du travail, moi j'ai rencontré plusieurs syndicalistes français qui, pour défendre les gens de leur syndicat au prud'homme, etc., et pour prendre un, sont devenus avocats. Hein, donc, à 40 ans, 45 ans, ils sont devenus avocats pour faire ça. Hein. Il y a aussi des gens, à l'inverse, qui sont des avocats classiques et qui, par l'intermédiaire de clients qui leur sont arrivés par hasard quelquefois, vont devenir des avocats d'une cause spécialisée. Hein, donc, là aussi, dans ces travaux sur le cause lawyering, le premier article qui avait posé ce point de vue-là, c'est un article de Ronen Shamir et Sarah Chinsky. Je ne sais plus si c'est un S ou un C, il faudra vérifier, ça doit être là-dedans, qui travaillait sur les avocats des Bédouins dans le désert israélien. Il y a beaucoup, alors c'est États-Unis et aussi pas mal Israël, les travaux sur le cause lawyering, et qui montrait qu'au départ, défendre les Bédouins, les populations bédouines, c'est des gens relégués, qui n'ont pas d'argent, donc c'était des avocats de petites villes du sud défavorisées qui ne pouvaient pas refuser la clientèle qui les avait pris vraiment par défaut, quoi. Et il montrait que donc c'était par défaut, ça n'avait rien de passionnant, et que ces avocats s'étaient un peu pris au jeu, avaient découvert quels étaient les problèmes spécifiques de cette population, donc les avaient aussi sensibilisés à leurs droits, et puis certaines ONG de défense des droits s'étaient mises à travailler avec ces avocats, et que peu à peu, ces avocats étaient devenus des avocats militants spécialisés sur cette cause, et avaient en quelque sorte transformé qui était au départ quelque chose qui faisait faute de mieux en une spécialisation et qui était valorisante aussi pour eux et qui leur permettait de donner un sens nouveau à leur carrière. Et donc, les formes d'articulation, comme ça, elles peuvent être très complexes et temporellement, ce qui est premier n'est pas toujours la même chose. Un dernier point. Alors, cette vision-là, si vous voulez, de la révélation, en quelque sorte, du fait, elle est par contre critiquée ou à une autre échelle par d'autres chercheurs qui disent, bon, c'est bien de s'intéresser aux trajectoires, ou pourquoi, comment ça se passe, que les uns ou les autres deviennent engagés. Mais si on regarde à une échelle notamment plus internationale, et là, ça vous concerne encore plus directement, on peut voir les choses autrement. Je pense notamment aux travaux de Brian Garth et Yves Dezalet, qui insistent sur la manière dont l'internationalisation ou la transnationalisation du droit, et notamment le développement du domaine des droits de l'homme à l'échelle internationale, peut être compris comme la construction d'une niche professionnelle, comme la construction d'un marché juridique, finalement, qui est tenu en grande partie par les États-Unis, qui, derrière l'idéologie des droits de l'homme, en fait, construisent un marché professionnel qui favorise les facultés de droit américaines et qui favorise l'exportation aussi des professeurs de droit et des spécialistes du droit américain sur tout le continent. Et donc là, les droits de l'homme comme nouvel impérialisme, non seulement idéologique, comme il peut l'être parfois critiqué, notamment dans les pays émergents, mais aussi comme un nouvel impérialisme professionnel et économique qui passe par le marché du droit. Et que donc, si on regarde non pas seulement ces trajectoires sympathiques, mais d'une manière plus générale, le tableau d'ensemble, disons, on peut le voir d'une manière plus cynique peut-être que l'analyse des trajectoires individuelles ne permet de le montrer. Est-ce que c'est clair ? Alors, pour essayer, mais je n'ai pas le temps, donc je vous y renvoie, vous allez le lire, parce qu'il est très intéressant de encore travailler sur ces paradoxes, il y a un article dans le Post-Lawyering volume 2 qui parle des avocats des droits transnationaux. J'ai de la chance, vous aussi. Et donc, il s'appelle « Taking on Goliath, why personal injury litigation may represent the future of transnational post-lawyering ». Donc, le concept de post-lawyering transnational. Donc, je ne parle pas bien anglais, donc je vais vous le dire en français. Pourquoi, en gros, alors là, on voit que je ne suis pas juriste. Personal injury litigation, je pense que c'est droit de la responsabilité. Ou c'est quelque chose comme ça?
Oui.
Dommage à intérêt, quoi. Les avocats qui sont spécialisés dans le fait de récupérer des droits. Donc pourquoi ces... Je me suis pas trompée. Pourquoi ces avocats-là, type d'avocat qui, aux États-Unis, veut dire avocat intéressé par le pognon, c'est tout. Pourquoi ces avocats-là, ça peut être le futur du post-lawyering?
On l'expliquera dans le débat pour ne pas vous inquiéter.
Voilà. Et donc, pourquoi ? Parce qu'ils ont l'expertise, ils ont les moyens, ils ont les capacités d'attaquer les films transnationaux.
Voilà.
Et donc là, elle revient sur un cas très connu, je pense, de vous, j'espère, je ne sais pas. Moi, je ne le connaissais pas du tout, qui est un cas qui concerne le Costa Rica et l'entreprise Dow Chemical, donc d'empoisonnement par des insecticides d'ouvriers costaricains au Costa Rica et une plainte qui est déposée au Texas pour poursuivre l'entreprise américaine pour l'empoisonnement donc de ses ressortissants qui ne sont pas américains, etc. Et elle explique pourquoi ces avocats-là sont les seuls qui pouvaient mener ce type de cause et pourquoi donc il ne faut pas, encore une fois, vouloir imposer une pureté à ce type d'avocat et pourquoi stratégiquement c'est intéressant d'avoir ce type d'avocat-là, même si ça pose de nouvelles contraintes, pour soit en alliance avec des objectifs politiques, soit même de leur plein gré avec d'autres moteurs que ceux de l'idéalisme politique, pour réussir à avancer sur des causes sur lesquelles des avocats idéalistes de gauche sympathiques n'ont pas les capacités techniques et financières pour avancer avec le nombre d'années qu'il faut, etc. Donc, voilà. Alors, voilà pour quelques exemples de travaux et quelques lignes. Alors, quelques remarques peut-être, et qui sont aussi un peu des questions à votre approche. On voit dans ces travaux, comme dans votre article, le fait qu'on s'intéresse aux avocats dans ce contentieux-là, on s'intéresse qu'aux avocats des victimes, des gentils, des gens qui sont attaqués, qui ont souffert, etc. On s'intéresse pas, on ne sait rien sur les avocats des personnes ou des entreprises qui sont accusées. Et on a envers eux, soit on les néglige, soit on a le même type de représentation monolithique que celles qu'on pourrait avoir avant qu'on ait travaillé sur le cost sharing sur les avocats engagés. On ne sait pas qui ils sont. Et ils n'intéressent pas, ils sont illégitimes, alors que c'est encore plus intéressant, de son point de vue, c'est encore plus un challenge de comprendre. Et ce ne sont pas non plus que des raisons financières, ça serait trop facile de présupposer ça, qui font que des avocats choisissent de défendre des causes qui sont illégitimes. Et qui sont illégitimes, c'est pas que des entreprises comme Total ou Biocubicole, ça peut être pour le droit transnational, qui défend les génocidaires ? Qui défend Pinochet ? Hein ? Alors on parle de Jacques Vergès, tout le temps, il en défend un certain nombre, mais il n'y a pas que lui, ils sont beaucoup, et c'est très intéressant de les comprendre et de les connaître et de savoir ce qu'ils font. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire un tout petit peu parce que j'ai eu l'occasion d'aller à Arusha, au tribunal pénal sur le Rwanda, et où j'ai fait des entretiens avec les... Alors, c'est... il n'y avait pas d'avocat des victimes parce que dans les TPI, il n'y a pas de représentation des parties civiles, donc comme ça, je ne risquais pas d'être entraînée de l'autre côté. Il n'y a que des avocats de la défense. Et qui sont ces avocats ? Et c'est très intéressant, je n'ai pas le temps là non plus, mais j'ai un article sur la vie des idées, un petit papier là-dessus. Par exemple, c'est tous des Québécois. On arrive en Tanzanie à Arusha, j'entends tout le monde parler français, c'est qui ? C'est des Québécois. Et vraiment, ouais, 50% des avocats à Arusha sont Québécois. Donc c'est quand même hyper bizarre. Et en fait, ça se comprend très bien, on peut le comprendre. Ils sont Québécois parce que les Québécois, ils connaissent le common law et la civil law. Donc, vu que c'est un tribunal, c'est du droit mixte, ils connaissent aussi bien le droit américain que le droit continental, et donc ça leur donne une compétence sur les deux. Ils parlent français. Les Rwandais, ils parlent français, donc ils ont un avantage là-dessus. Il y a des liens aussi hein, entre le Rwanda et le Canada, justement, à cause de ces proximités-là. Donc on peut comprendre pourquoi, dans un premier temps, ce sont des Canadiens. Il y a eu des Belges aussi, évidemment. Hein. Mais pourquoi, après les Belges, ce sont les Canadiens qui y sont allés. Après, on peut comprendre, on peut essayer, en discutant avec eux, on voit que ces circonstances qui ont fait qu'un certain nombre de Canadiens sont arrivés, que progressivement ils ont fait venir des collègues canadiens, par exemple, ne suffit pas à expliquer pourquoi, notamment, certains de ces avocats canadiens sont devenus des critiques du tribunal lui-même. Et donc sont devenus idéologiquement impliqués dans les débats sur le TPIR, alors que c'est pas évident comme position, hein, je veux dire, de défendre des gens qui sont accusés de génocide. Et pourtant, ils le revendiquent. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est un mécanisme de défense ? Comment se passe la revendication ? Comment on peut expliquer cette revendication aussi par le fait que dans la justice internationale, en tout cas telle qu'elle est rendue à Arusha, les droits de la défense sont à la fois importants sur le papier et très problématiques dans leur mise en œuvre réelle. Et donc, en essayant d'être des bons avocats, ils peuvent être amenés à voir ces lacunes et donc à délégitimer le tribunal, d'une part. Et d'autre part, ils sont très bien payés, $15,000 par mois à peu près, hein. Et ils font beaucoup d'obstructions quand même, il faut le dire. Donc, bon, il y a beaucoup de logique, justement, concrète, qu'on peut comprendre que quand on va voir le tribunal. Parce qu'en plus, lorsqu'on analyse des cas ou des décisions de justice, on ne voit pas les avocats. Et c'est très, hein, ils disparaissent du processus. Alors évidemment, ils sont très importants. Et lorsqu'on va les voir, on voit la complexité, on voit d'où ils viennent. Alors il y a aussi des figures d'avocats africains. J'ai parlé des Québécois parce que c'est eux qui m'avaient surpris. Hein, mais il y a des Africains aussi, puis il y a quelques Américains. Ils ont tous des caractéristiques, des raisons d'être là, etc., qui sont assez différentes. Et ce sont aussi des avocats, ceux du TPIR, qui font la défense en justice transnationale aussi, des mêmes personnes ou des autres personnes qui sont suspectées pour génocide. Donc il faut aussi, lorsqu'on considère ces avocats-là, mettre en relation les différentes arènes de la justice internationale ou transnationale parce que ces acteurs circulent entre ces différents process, ces différentes procédures. On pourrait aussi s'intéresser aux magistrats davantage, hein. Là aussi, le sociologue, il est amené à déconstruire les fictions juridiques que sont des appellations comme le législateur, le juge, hein, parce que nous, on voit des législateurs, beaucoup de juges qui n'ont souvent rien à voir les uns avec les autres, et donc on essaie aussi de comprendre, et ça déjà les réalistes le montraient, quelles caractéristiques sociales peuvent ou de carrière ou de trajectoire personnelle expliquent pourquoi tel juge à tel moment est en mesure de poser un certain nombre d'actes, et c'est évidemment sur ces questions-là qui constituent des précédents extrêmement importants. Des questions qui sont fortes et nécessaires. Qu'est-ce qui produit socialement le juge Garçon, hein ? C'est pas juste un type qui arrive là. Il y a des conditions qui font qu'à un moment, il peut faire ce qu'il fait. Alors bien sûr, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, mais tout le monde ne pouvait pas le faire. Mais bon, c'est pas dans un contexte qui est totalement neutre. Et puis il a sans doute une trajectoire qui permet d'expliquer. Et puis en faisant ce qu'il fait, il permet aussi à d'autres d'essayer de faire des choses. C'est-à-dire que le contexte général d'action des autres magistrats est transformé par ce qui a eu lieu une seule fois. Ça suffit à changer quand même le paysage. Et ça va avoir des effets d'entraînement ou pas, mais donc les autres sont obligés de se positionner par rapport à cette nouveauté. Donc le deuxième point que je voulais aborder, je vais juste le dire ce que je voulais faire, c'était, après m'être intéressée aux acteurs, c'était d'essayer de remettre en cause aussi, enfin pas de remettre en cause, mais de dire que quand on travaille en sociologie ou en histoire d'ailleurs, sur ces objets, on n'est pas obligé de respecter aussi scrupuleusement les catégories et les périodes, enfin, celles des juristes en tout cas. C'est-à-dire que le contentieux transnational des droits de l'homme tel que vous le définissez, évidemment, il est circonscrit à quelque chose de relativement récent. Mais si je prends, dans un sens plus large, la définition que vous donnez, qui est celle de revendication de liberté publique et de valeur basée sur des normes de droit international par le moyen d'une procédure de judiciaire interne, j'ai beaucoup d'exemples de procès, y compris dans les années 50, y compris dans les années 30, qui font déjà ça, sans le dire, et sans que ça s'appelle du droit transnational, hein, ou dans les années 70. Alors, pour citer, et puis j'y reviendrai si vous voulez, des exemples, il y a des formes impures, il y a des formes fausses, mais qui sont très importantes. Il y a une forme politique sur laquelle j'aimerais travailler, qui est le faux tribunal. Et ça, c'est des constructions politiques, comme le tribunal Russell pour le Vietnam, et puis pour l'Amérique latine. Pourquoi choisir cette forme-là? Qu'est-ce que ça annonce? Et dans quelle mesure ces fictions, elles vont quand même avoir une incidence sur la construction d'une vraie justice internationale? Donc ça, je crois qu'il y a des filiations entre objets symboliques et objets juridiques, en quelque sorte, qu'il faut, sur lesquels il faut réfléchir. Autre exemple, hein, j'en avais d'autres. Bon, j'ai travaillé un peu par hasard sur un procès assez connu de la fin des années 40 en France, ça s'appelle le procès Kravchenko. Je pense que ça ne vous dit rien, ça ne dit rien en France à personne non plus. Pour dire les choses très vite, Kravchenko, c'était un Ukrainien soviétique qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été à New York pour les accords pré-bail avec les États-Unis et a fui, a demandé l'asile politique aux États-Unis et a dénoncé dans un livre qui s'appelle « J'ai choisi la liberté, le goulag ». C'est une des premières dénonciations publiques connues, je dirais, de la situation à la fois de la famine en Ukraine et du goulag soviétique. Donc, c'est un livre qui a été traduit en France et qui, en 1947-1948, a un succès énorme. Il va être vendu à 300 000 exemplaires, donc un truc best-seller, hein, donc sous le titre « J'ai choisi la liberté ». Et il va être, évidemment, alors la France de l'époque, le Parti communiste est très fort, enfin, c'est en gros, c'est les mêmes équilibres qu'en Belgique à la même période, et donc la presse communiste va s'acharner contre le bouquin en disant c'est un tissu de mensonge, ce type est un alcoolique, un fou, et donc notamment dans les Lettres françaises, qui est le grand hebdomadaire communiste, il va y avoir des articles qui vilipendent le type. Et le Kravchenko, depuis les États-Unis, il attaque en diffamation les Lettres françaises. Et donc ce procès de diffamation de presse qui peut sembler... va devenir un énorme procès médiatique et mondain même. Hein. Nina Berberova, qu'on va après connaître comme écrivain, elle va être la correspondante d'un journal de Russe Blanc pour le décrire. Et ça va être un procès donc, dans lequel les représentants du Parti communiste vont aligner les généraux de l'armée rouge, les plus grands résistants français, Vercors, etc., tout ce qu'ils peuvent de grands intellectuels communistes pour dire « Kravchenko ment, l'URSS c'est formidable ». Et de l'autre côté, la défense de Kravchenko va faire venir des anciennes personnes déportées au goulag, des personnes qui... alors, ils ont beaucoup de mal à réunir des intellectuels, hein, mais ça va être un procès qui va être complètement... qui va dépasser d'ailleurs le juge qui est très emmerdé et qui va devenir le procès du goulag et le débat sur l'existence du goulag. Donc avec un droit qui n'est pas du tout pertinent, avec l'impossibilité de chercher des preuves, d'accord ? Avec des victimes qui ne sont pas la victime du procès, puisque c'est de la diffamation, mais un retentissement politique et une dénonciation du goulag qui vaut bien un certain nombre d'affaires de compétences universelles que personne ne connaît et qui traînent dans les caves d'un tribunal en attendant d'être oubliées complètement. Hein. Donc, sortir des catégories et s'intéresser à certains de ces procès, c'est aussi remettre en perspective, je dirais, la nouveauté de la justice transnationale par rapport à d'autres épisodes, sans doute méconnus, mais qu'on peut relire différemment dans cette perspective. Hein. Donc tout ça pour dire, là c'était un exemple sur le Parti communiste français, et ses liens avec l'étranger, hein, tout ça pour dire que la justice transnationale, c'est pas, enfin, on peut la lire aussi, pas seulement sous le biais d'une justice des droits de l'homme ou de la justice pénale internationale, si on la relie ainsi plus librement, hein, on peut dire qu'elle recroise, et c'est vrai aussi par exemple des affaires sur le Rwanda, d'autres canaux, ceux qui lient des diasporas politiques, des diasporas religieuses, des diasporas nationales qui sont entre différents pays, hein, par exemple les liens Belgique, Rwanda, Québec, qui traversent des aspirations théoriques et politiques très différentes et qui peuvent se jouer dans d'autres enceintes que celles de la justice. Pour prendre peut-être un dernier exemple, j'ai découvert par une de mes voisines une des affaires aussi des années 50 sur lesquelles je travaillais, c'est l'affaire Rosenberg, vous connaissez, hein, donc ce couple d'Américains qui a été condamné à mort, exécuté aux États-Unis parce qu'on les a accusés d'avoir transmis des renseignements sur l'arme atomique américaine aux Soviétiques pendant la guerre froide. Et ben en France, il y a encore une association de défense des époux Rosenberg qui est active, qui tient ses assemblées générales, où il y a des tas de gens, pas énormément de gens, mais des gens quand même assez pour rendre l'association, qui espèrent encore qu'il va y avoir un procès en révision, qu'on va les réhabiliter, etc. D'accord ? Et ben c'est une forme de demande de justice transnationale aussi, ça. Hein ? Et donc, on voit bien que... et qui joue sur d'autres temporalités, et qui joue sur d'autres objets, d'autres types de mobilisation que ceux qu'on peut attendre. Donc voilà, je suis sans doute allée trop loin. J'aurais pu dire quelque chose sur la représentation des victimes aussi, ce que peut en dire la sociologie par rapport à la manière dont les juristes posent les victimes comme un objet, alors que nous, on travaille sur la reconstruction de la figure de la victime, et sur la manière dont, par exemple, les avocats sélectionnent des bonnes victimes pour les amener devant certaines enceintes judiciaires, qui peuvent avoir des bonnes caractéristiques en laissant de côté d'autres, et ce que ça implique quand même d'un point de vue social, politique, etc. Et pour finir, j'avais d'autres idées sur lesquelles je vais passer pour me placer la parole. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé qui, moi, m'a beaucoup intéressé et j'espère a beaucoup intéressé les étudiants. Ça nous a montré, je crois, vraiment l'utilité, et je vais même dire la nécessité, de mettre davantage... de bénéficier davantage du regard des sociologues sur ce monde juridique et judiciaire, parce que c'est vrai que vous mettez en évidence des choses que finalement que l'on sait ou que l'on ne sait pas, mais auxquelles on ne prête pas suffisamment d'attention. Mais donc maintenant, comme promis, je passe la parole à Manuel Lambert.
Merci, et merci pour l'invitation. Je vais essayer d'être bref, donc rappelez-moi alors si je manque à mon devoir de précision. Alors, donc, je m'appelle Manuel Lambert, je suis conseiller juridique à la Ligue des droits de l'homme. Donc, je suis, comme Benoît l'a dit, un des acteurs, entre guillemets, de terrain. Un petit acteur, parce qu'il y en a de nombreux acteurs. C'est quelque chose qui implique beaucoup de personnes et beaucoup de personnes de types assez différents que je vais présenter, notamment à travers un cas bien particulier. Alors, la Ligue des droits de l'homme, c'est une ASBL, une association donc de droit belge, donc qui n'est compétente, son objet social est limité à la Belgique. Donc, a priori, elle n'a pas vocation pour s'intéresser à des questions qui dépassent les frontières, des questions d'ordre international. Il y a quelques exceptions à cette règle, c'est notamment ce contentieux transnational des droits de l'homme qui va nous permettre, d'une part, de nous intéresser à des questions qui dépassent les frontières, et d'autre part, nous intéresser également à des cas particuliers, parce qu'a priori, on ne défend pas des individus, des cas particuliers, mais on défend des causes globales, entre guillemets, donc on va plutôt tenter d'agir sur des législations, des pratiques, des réglementations, plutôt que la défense d'un individu en particulier. Alors, peut-être un bref mot sur la loi compétence universelle. Bon, j'imagine que vous avez déjà vu en long et en large la semaine dernière, il y a deux semaines, avec Daniel van der Nersch. Simplement signaler qu'on s'est intéressé beaucoup à la question également à la Ligue, puisque après la loi de 1993, qui est donc la loi sur la répression des infractions graves de droit racial humanitaire, qui a été modifiée en 1999, et puis qui a été utilisée par différents plaideurs, et donc il y a différentes plaintes assez médiatiques qui ont été introduites. J'en citerai juste trois, c'est Ariel Sharon et Amos Yaron pour leur implication dans le massacre de Sabra et Shatila, Tommy Franks, général américain lors de la première guerre du Golfe, et le président Bush, donc président à l'époque des États-Unis, et l'affaire Total. Il y en a bien d'autres, il y a des plaintes contre Pinochet, Kabila Père, toute une série de plaintes, mais celles-là ont particulièrement cristallisé l'attention parce qu'elles s'attaquaient à des personnages assez importants du côté du monde occidental, et donc la Belgique, de ce fait, a subi des pressions très importantes de la part de différents acteurs, ce qui a conduit à une modification de la loi, tout d'abord en 2003, puis à une abrogation de la loi, et qui a été remplacée par une nouvelle loi de compétence universelle qu'on connaît à l'heure actuelle. Alors cette loi de 2003, cette nouvelle loi de compétence universelle, a été attaquée par la Ligue des droits de l'homme devant la Cour constitutionnelle pour une partie bien précise, ce qui a entraîné un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a annulé cette loi sur cette partie-là, qui a poussé le législateur à adopter une nouvelle loi, une loi réparatrice, et qui a également été attaqué par les droits de l'homme, mais cette fois-ci sans succès, vu que le recours a été rejeté. Et tout ça pour illustrer que c'est un des modes d'action qui est celui de la Ligue, c'est le droit, c'est l'utilisation de l'action en justice, du recours juridique pour essayer d'obtenir, d'arriver à un but. C'est l'un des modes d'action et il en existe toute une série d'autres. Alors, je ne reviens pas sur toutes parce que je vais essayer de faire bref sur toutes les questions juridiques, mais si vous voulez, on peut revenir dessus ultérieurement. Ce que j'aimerais faire, c'est vous présenter un cas concret sur lequel j'ai travaillé de plus ou moins près, c'est l'affaire Total. Alors, l'affaire Total, je suis un peu intimidé de parler de cette affaire devant vous, vu qu'il y a une actrice privilégiée, qui est une avocate, qui est à la base de cette affaire en Belgique, qui est présent, donc je l'ai appelé avant de venir pour avoir quelques détails sur cette affaire, et je lui ai proposé du coup de prendre ma place, parce qu'elle connaît mieux l'affaire que moi. Elle a refusé, soit par modestie ou par perversité, pour m'avoir implanté sur une autre question. Alors, donc je l'invite à me corriger si jamais j'ai des approximations. Alors, je ne vais peut-être pas aborder tellement les questions sous l'angle juridique, on peut y revenir, mais comme pour m'inscrire plus dans l'esprit du séminaire, plus sur un aspect sociologique, même si je ne suis pas du tout sociologue, mais en tout cas, essayer de présenter les différents acteurs qui ont été impliqués là-dedans. Alors, à la base de cette affaire, donc, il y a d'une part des violations massives des droits fondamentaux en Birmanie, dans le cadre de la construction d'un gazoduc, le gazoduc de Yadana, en Birmanie, donc avec la complicité. Donc, j'utilise des termes. Je suis un acteur qui a un point de vue, donc vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais par définition, j'ai un point de vue sur le dossier. Donc, avec la complicité de Total, notamment, une compagnie française, franco-belge, je vais revenir là-dessus, et de Unocal, une compagnie américaine. Alors, donc, des violations massives qui ont été reconnues par toute une série de différents acteurs, qui concernent principalement des faits de torture d'une part, ou de mauvais traitement animal dégradant, et de travail forcé. Alors, un réfugié birman, enfin plusieurs réfugiés, mais un réfugié birman, me concentrer sur lui, a introduit une plainte contre X en Belgique pour ces faits, et contre Total et deux de ses dirigeants de l'époque, donc l'un des dirigeants, le PDG de Total, Thierry Desmarais, et le président de sa branche birmane, Hervé Madeo, à l'époque, et donc a déposé plainte pour complicité contre ces personnes. Alors, ça va être le début, donc une plainte en 2002, ça va être le début d'une saga judiciaire et politique, médiatique très importante, qui va aboutir à deux décisions de la Cour de cassation, une décision de la Cour constitutionnelle, une injonction ministérielle de reprendre la procédure, à une doctrine abondante, différents articles, une mobilisation des manifestations, mobilisation de la société civile et des syndicats, et on l'espère, enfin on est sûr, un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qu'on attend toujours, mais qui va également aboutir. Donc toute cette agitation politique et médiatique, le début de toute cette agitation, eh bien, c'est quoi ? Eh bien, ce sont deux étudiants en droit, dernière année de master de l'UCL, qui donc sont issus de la promotion de 1998, qui est la promotion Aung San Suu Kyi. Comme vous savez, Aung San Suu Kyi est donc le prix Nobel de la paix et la principale opposante au régime birman. Donc, qui en 1998 se fait arrêter pour la xième fois et emprisonné. Et donc, ça va pousser ces deux étudiants à se mobiliser sur le cas de cette personne. Et donc ils vont aboutir à créer une association qui s'appelle Action Birmanie, avec d'autres, mais ils sont à la base de cette mobilisation. Et il se trouve que également ultérieurement, Total, qui était une compagnie française, et FINA, qui était une compagnie belge, vont fusionner, ou Total va absorber FINA. Au sein du conseil d'administration de FINA se trouve une personne qui est aussi vice-présidente de l'UCL. Et donc, cette personne va tout d'un coup se retrouver quelque part face à un double discours, étant donné que d'un côté, Aung San Suu Kyi est docteur honoris causa de l'UCL, de l'autre côté, un des dirigeants de l'UCL est également dirigeant de Total qui collabore avec la dictature du Yémen. Donc on a quelque part une contradiction, ce qui va pouvoir être utilisé par les étudiants en question, qui ne sont plus étudiants à l'époque, pour justement exercer un lobby sur l'UCL, ce qui va aboutir notamment au fait que l'UCL va accorder des bourses à des étudiants birmans pour qu'ils puissent venir étudier à l'UCL. Et l'un de ces étudiants birmans est Aung Mao Zin, qui va déposer plainte contre le Total, notamment, et les autres personnes. Alors, ça va donc lancer, cette plainte va lancer tout le processus de Total, de l'affaire Total. Alors, je vais essayer de présenter très très brièvement l'ensemble des acteurs qui sont intervenus dans ce dossier. Ben, tout d'abord, il y a ces deux étudiants qui sont devenus des avocats, des jeunes avocats au barreau, qui vont écrire la plainte, qui vont prendre la défense de Aung Mao Zin, écrire sa plainte de 85 pages et être à la base de ce recours, véritablement. C'est ce Benoît a parlé au début de petits juges, ben, on pourrait dire qu'ils ne sont pas si petits que ça, on pourrait parler de petits avocats qui ne sont pas si petits que ça, ou de cause lawyers, comme en parlait l'oreille d'Israël. Alors, à la base, il y a donc c'est uniquement ces deux jeunes avocats qui, par la suite, vont évidemment avoir l'assistance d'autres jeunes avocats, également d'avocats d'un plus grand renom, vu qu'à un stade de la procédure, Mark Huytendahl va intervenir également dans la procédure pour donner un coup de main, ce qui n'est pas sans application sur le reste du dossier. Je vais y revenir tout de suite. Alors, ces jeunes avocats vont bénéficier également de l'aide d'autres acteurs, qui sont les académiques, qui sont donc Olivier de Scutter à l'UCL et Eric David à l'ULB, qui vont relire cette requête, qui vont pouvoir conseiller sur ces avocats sur la meilleure marche à suivre. Et ensuite, il y a également les ONG, notamment la Ligue des droits de l'homme. Alors, ces séparations ne sont pas étanches, étant donné que l'une des avocates est à la fois avocate dans ce dossier, mais membre de la commission de justice de la Ligue des droits de l'homme. Olivier de Scutter est à l'époque donc toujours prof à l'UCL, mais est aussi secrétaire général de la Ligue des droits de l'homme à l'époque, ensuite secrétaire général de la FIDH, et maintenant au rapporteur de l'ONU pour le droit à l'alimentation. Donc ces acteurs ne sont pas, cette séparation ne sont pas étanches. Alors, en ce qui concerne les ONG plus particulièrement, elles agissent selon leurs propres moyens d'action. Donc, ça peut être une action en justice. Ici, en l'occurrence, ce sera celui de créer un rapport de force politique plus favorable et médiatique, dans le sens où un lobby est nécessaire pour pouvoir présenter, d'une part, les enjeux à la presse, au grand public, et pour pouvoir créer aussi une pression sur le monde politique. Parce qu'en face, il y a aussi une série d'acteurs très, très puissants, la multinationale Total en l'occurrence. Alors, je vais peut-être préciser aussi sur les avocats, faire la distinction entre les avocats du requérant et les avocats de la défense. Donc, pour marquer un peu la différence, ça ne se chiffre pas évidemment on ne peut pas mettre ça en évidence uniquement sur une base financière, mais c'est quand même important. Étant donné que, je pense que sur 8 ans de procédure, donc de 2002 à 2010, et ce n'est pas fini, les avocats de Aung Mao Zin ont récolté 2800 euros. Et de l'autre côté, Total est défendu par 10 avocats qui, chacun, travaillent à 500 euros l'heure. Donc il y a quelque part une différence d'accès à la justice qui est assez importante et qui donc va nécessiter, pour ces avocats qui sont à la base du recours, une assistance pour contrebalancer, donc avoir l'expertise d'une part du monde académique, mais aussi plutôt on va dire l'agitation médiatique et politique des ONG qui va leur permettre de quelque part rééquilibrer un peu la balance face à son adversaire. Alors les ONG donc qui sont nombreuses hein, puisque Action Birmanie a rassemblé autour d'elle toute une série d'acteurs dont la Ligue, mais aussi toutes des ONG du secteur, mais aussi des syndicats, est très important parce qu'on parlait de travail forcé. Donc, vont exercer un lobby notamment médiatique. Alors, il y a le rôle de la presse qui est également important. Il y a la presse qui a suivi le dossier d'assez près, notamment un journaliste au soir, Ian Condate, qui a suivi toute la procédure et qui a donc rapporté toutes les étapes de la procédure, ce qui était évidemment très important, pour pouvoir faire pression sur le monde politique. Le monde politique qui, lui aussi, a dû jouer un rôle à un stade, non seulement parce qu'ils étaient soumis à des pressions de toutes parts, dans un sens ou dans l'autre, mais aussi parce qu'à un stade de la procédure s'est trouvée bloquée. Donc la seule issue, c'était une intervention politique, à savoir que le ministre de la Justice a un pouvoir d'injonction positive dans les dossiers, donc il n'a pas de pouvoir d'injonction négative, il ne peut pas bloquer l'instruction d'un dossier, mais il peut ordonner l'instruction d'un dossier, ordonner au juge d'instruction d'enquêter sur tel ou tel dossier. Et donc là, en l'occurrence, lorsque le dossier a été bloqué, il a fallu faire appel au ministre de la Justice pour qu'il puisse donner cette injonction positive. Il se trouve qu'en l'occurrence, le ministre de la Justice à l'époque, c'était Madame Göllings, qui est l'épouse de Mats Kotlundal, qui lui-même était intervenu à un stade de la procédure. Il a donc fallu qu'elle se désiste, parce qu'il y avait clairement un conflit d'intérêts, et donc c'est le ministre de la Défense, André Préau, qui a reçu le dossier, un peu, à mon avis, à son corps défendant. Et donc, il a fallu aussi, pour les ONG, rencontrer ce ministre pour le convaincre de pouvoir relancer la procédure, ce qui a été fait. Ensuite, il y a également les juridictions qui sont importantes et les juges qui jouent un rôle très important en l'occurrence. Il y a eu quelque part dans ce dossier ce qu'on a appelé une guerre des juges, vu qu'il y a eu des décisions contradictoires de la Cour de cassation d'une part et de la Cour constitutionnelle d'autre part. Et donc, on a véritablement deux juridictions qui, a priori, pour des raisons historiques et que j'ignore, ne s'aiment pas beaucoup. Et donc, ils ont vraiment adopté des positions diamétralement opposées. Et malheureusement, c'est la Cour de cassation qui a gagné. Alors, les juridictions sont importantes. Et puis aussi, peut-être le plus important, dont je n'ai presque pas parlé, c'est la victime. Alors, la victime a joué un rôle très important dans ce dossier, puisque, comme vous le savez, il y avait donc trois feux qui étaient allumés, on va dire, trois feux juridiques, puisqu'il y avait une procédure contre Unocal à San Francisco aux États-Unis, une procédure contre Total à Paris, et une procédure à Bruxelles contre Total également. Alors, Ludovic disait lors de la séance d'introduction que c'était peut-être quelque part une forme de loterie, où plus on multiplie les chances, plus on a de chances de gagner. C'est pas tout à fait vrai en l'occurrence, dans le sens où les avocats estimaient qu'il y avait véritablement une justification juridique à introduire cette plainte en Belgique. Et d'ailleurs, je signale par ailleurs que la plainte a été introduite d'abord en Belgique, avant la France. Donc, William Bourdon a introduit la plainte 4 mois après les avocats belges. Donc, le fameux avocat a quelque part, et il s'est pas mal inspiré de la plainte belge aussi, donc je ne le connais pas. Bref, tout ça pour dire qu'il y avait une justification à introduire ce recours en Belgique pour différentes raisons d'ordre juridique, sur lesquelles je peux revenir si vous le souhaitez. Mais ce qui est important, parce que je parle de la victime maintenant, c'est que tant aux États-Unis qu'en France, eh bien, les Total, en fait, a cherché à transiger avec les plaignants, on pourrait dire à tenter de les corrompre, si on peut utiliser ce mot-là, de les acheter. Et donc, bref, c'est une vision assez, sans doute assez fausse, parce que les victimes qui ont accepté aux États-Unis et en France, eh bien, avaient toute légitimité à évidemment accepter, puisque leur vie, ce sont elles les victimes après tout. L'intérêt des ONG, en l'occurrence, est différent de celui des victimes, puisque les ONG estimeraient que nous estimions en Belgique que pour la cause, il valait mieux que la procédure aille jusqu'au bout. Certains n'ont pas fait ce choix-là, on ne peut évidemment pas les critiquer, ce sont elles qui sont les maîtres du jeu, et c'est très bien comme ça. Mais en Belgique, donc la personne, la victime, en l'occurrence, Total a également essayé de transiger avec la victime B. Mais elle a refusé, a toujours refusé, a décidé d'aller jusqu'au bout, alors qu'elle-même n'était pas dans une situation financière favorable, pas du tout. C'est même le contraire. Et donc, cette personne, par son désir d'aller jusqu'au bout des choses, ben, qui quelque part rencontrait aussi le désir des ONG, mais qui n'avait rien à dire en l'occurrence, eh bien, va peut-être permettre d'obtenir une évolution qui est assez intéressante dans ce dossier. Alors, je finis maintenant en disant simplement quelle motivation pour la Ligue des droits de l'homme, en tout cas, d'intervenir dans ce dossier. Ben, je pense qu'il y en a sans doute beaucoup, mais il y en a une notamment qui est celle, étant donné que c'est la Ligue belge, c'est d'agir sur le local, agir chez nous sur le respect des droits de l'homme par les acteurs belges, que ce soit en Belgique ou à l'étranger. Et donc, en l'occurrence, Total Fina, Elf, puisque c'était une absorption de société, a un siège en Belgique, et donc il y a une responsabilité quelque part qu'on peut faire valoir en Belgique que des acteurs qui sont installés en Belgique doivent respecter les droits fondamentaux, même à l'étranger. Et en outre, il y a une critique qui est souvent faite à l'égard de la justice, de la compétence universelle, qui n'est pas infondée, qui est celle d'une justice injuste, puisqu'elle ne vise que les personnes issues du tiers-monde et les personnes qui sont un peu des sans-grades. En Belgique, c'est assez flagrant, étant donné qu'on peut juger, par exemple, des bonnes sœurs qui sont complices de génocide au Rwanda, ce qui est tout à fait légitime, ce qu'il faut faire, mais on ne peut pas juger les chefs d'État occidentaux. Et donc, il y a quelque part un ressentiment très fort qui disqualifie la justice internationale aussi. Et c'est important aussi de pouvoir dire on ne cherche pas uniquement à pénaliser les pays du tiers-monde, mais on va aussi balayer devant nos portes. Et alors, sur l'instrumentalisation du droit, pour terminer là-dessus, en effet, je crois que le droit est une arme, une des armes qu'on utilise. Instrumentalisation, c'est peut-être pas le bon terme, sauf à prendre comme le prend Daniel Vandermeersch, à savoir que oui, c'est un instrument qu'il faut utiliser, mais ce qui est bien avec le droit, c'est que c'est aussi dans un cadre qui est déterminé. Donc, on va introduire des recours en justice, mais on doit respecter toute une série de règles, on doit s'inscrire dans un cadre. On ne peut pas faire des recours, on ne peut pas les gagner, en tout cas, on ne peut pas avoir d'espoir si on ne rentre pas dans un cadre qui est totalement déterminé et si on ne respecte pas les règles du jeu. Or, en l'occurrence, ça nous pousse à respecter ces règles du jeu pour essayer d'obtenir quelque chose, ce qui limite déjà les utilisations, les instrumentalisations trop politiques de cet instrument. Voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, de nous donner tous ces éléments concrets, tous ces éléments qu'on apprend, hein, dans une formation juridique.